Ouverte en grande pompe le 2 décembre, la 25e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, dite COP25, s'est donc achevée hier soir à Madrid sur un constat mitigé. Selon les observateurs, très peu d'avancées ont eu lieu parmi les grands États pollueurs. Mais malgré tout, une idée a été retenue, celle d'un pacte vert européen présenté cette semaine par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une avancée dont elle n'hésite pas à dire qu'elle est aussi décisive qu'un premier pas sur la Lune. Jérémy Rifkin, bonjour.
Good morning.
Bonjour.
Vous êtes essayiste américain, l'auteur de très nombreux ouvrages qui sont tous des best-sellers, comme La troisième révolution industrielle, L'âge de l'accès, La fin du travail. Vous conseillez aussi des chefs d'État, et on y reviendra. Vous avez fait paraître il y a quelques semaines le New Deal vert mondial, dans une traduction de Cécile Duteil de la recherche aux éditions Les Liens qui libèrent, qui est un véritable manuel de transition globale. Vos propos ce matin seront traduits par l'ami Michel Zlotowski. Alors pour vous, est-ce que ce New Deal Green, ce Green New Deal, c'est effectivement, comme l'a annoncé la nouvelle présidente de la Commission européenne, pour commencer, l'équivalent d'un pas sur la Lune?
Je viens de rentrer de Bruxelles hier et j'ai eu des réunions avec le Parlement européen et la Commission. Je voudrais vous dire, j'écoutais les informations. On parlait du crack, de la cocaïne, des accords de Trump avec la Chine. Je voudrais dire à tous mes amis, nous sommes en train de dormir. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Nous sommes maintenant à la veille de la 6e extinction de la vie sur le globe. Et nous sommes tous impliqués avec des problèmes quotidiens. Et nous ne nous rendons pas compte que ce que je viens de dire, c'est le plus grand drame qui fait face à l'espèce humaine. Il y a eu 5 autres extinctions de la vie au cours des millions d'années sur Terre, bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Et ces phases arrivent très rapidement, et ça prend des dizaines de millions d'années avant que la vie ne revienne. J'aimerais bien que tous les auditeurs écoutent ça, que les jeunes comprennent que nous sommes maintenant dans la 6e extinction de la vie sur Terre. Et dans les prochaines décennies, nous allons perdre la moitié des espèces vivantes sur Terre. Ce sont des espèces qui sont là depuis des millions d'années. Et maintenant, l'espèce humaine est en péril face à une extinction potentielle. Nous dormons. Mais vous savez qui se réveille? Ce sont les jeunes. Il y a eu des millions et des millions de jeunes de la génération Z qui ont quitté leur salle de classe cette année, et aussi des millénials qui ont quitté leur bureau dans 140 pays à travers le monde, qui ont déclaré qu'il y avait une urgence climatique et ont demandé un New Deal vert. C'est pas comme les autres manifestations au cours de l'histoire. Il y a eu des manifestations tout au long de l'histoire, mais c'est la première fois que deux générations à travers le monde ont commencé à se considérer comme une espèce en danger. Toutes les autres frontières ont disparu soudain. Et on commence à voir les autres créatures vivantes comme faisant partie de la famille de l'évolution en péril, et qui commencent à considérer la biosphère comme la communauté invisible. C'est une transformation extraordinaire dans la compréhension humaine de notre présence sur la planète. On a besoin d'un New Deal vert, d'un nouveau deal vert. Mais est-ce que les gouvernements, est-ce que les industries, est-ce que les régions vont dire « bon, il n'y a pas d'autre priorité, c'est la priorité ».
C'est la question que j'allais vous poser, Jérémy Rifkin. Manifestement, les jeunes ont bien compris ce que vous dites et ils le manifestent haut et fort. Mais vous qui revenez de Bruxelles, vous qui conseillez des chefs d'État et notamment la Chine, on va y revenir, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui vient de se passer là d'un point de vue mondial, de ce qui vient de se passer d'un point de vue européen est suffisant et à la hauteur de ce que vous rapportez là?
Ce n'est pas suffisant. Le problème auquel on fait face, c'est que chaque fois qu'on a une de ces conférences des Nations Unies sur le climat, chaque fois que des dirigeants disent ce qu'ils veulent faire, ils nous donnent, si vous voulez, une liste de linge à laver, des petits projets isolés qui ne font pas une nouvelle vision, un nouveau modèle économique, une façon que les gens puissent comprendre dans quelle direction on va. Je vais vous expliquer. Il faut faire un pas en arrière et comprendre comment les grandes révolutions industrielles se sont produites dans l'histoire. C'est un moment du temps où trois technologies émergent et convergent à travers les civilisations pour créer une infrastructure qui fondamentalement transforme la façon dont on gère l'énergie et comment nous mouvons dans le monde. Trois technologies. Nouvelle technologie. Deux, nouvelles sources d'énergie. Trois, nouvelles façons de se mouvoir et de logistique. Quand une révolution de la communication converge avec une révolution énergétique et une révolution de la mobilité, cela permet d'envisager le monde totalement différent pour organiser notre vie quotidienne. Donc, ce qui s'est produit ici, c'est que nous voyons la mort de la seconde révolution industrielle, celle du XXe siècle. Elle a atteint le maximum de sa performance et meurt. C'était basé sur la centralisation des télécommunications, des énergies fossiles et les transports basés sur la combustion interne, les moteurs à combustion interne. Cette infrastructure a eu son pic de performance il y a 20 ans. Elle est en train de mourir et elle est basée sur l'énergie fossile et ça nous mène à l'extinction de l'espèce. Nous sommes maintenant à l'aube de la troisième révolution industrielle. Je vais vous dire quel est le Green, le New Deal vert. On l'appelle l'Europe intelligente et c'est aussi China Plus parce que je travaille avec les dirigeants chinois. Il y a une convergence à nouveau de la communication, de l'énergie, de la mobilité et de la logistique. La révolution de la communication, c'est l'Internet. Ça fait 29 ans que ça existe. Le monde entier est connecté. Tout le monde a un téléphone intelligent, un smartphone. Cet Internet converge avec un Internet de l'énergie renouvelable, numérisée. Les gens produisent eux-mêmes leur électricité solaire et éolienne à travers le monde et ils partagent cette énergie avec des millions d'autres dans un Internet numérisé, utilisant les mêmes grandes données, les big data, comme nous partageons l'information grâce à l'Internet de la communication. Eh bien, ces deux Internets convergent avec un Internet supplémentaire, celui de la mobilité et de la logistique, grâce à des automobiles qui sont mues par des piles à combustible qui sont rechargées par l'éolien et le solaire, qui seront autonomes et qui seront mues et dirigées par les algorithmes que nous connaissons déjà. C'est l'infrastructure pour un New Deal post-carbone pour notre société.
Certains, Jeremy Rifkin, trouvent précisément que vous accordez une place un peu trop importante à la technique, aux nouvelles technologies, à ce numérique dans la transition écologique que vous-même appelez de vos voeux, sachant qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le numérique est très gourmand en énergie, et pas seulement en énergie solaire, pas seulement en énergie renouvelable. Donc est-ce que réellement la technologie, les nouvelles applications, le nouvel Internet dont vous parlez là, est compatible avec la transition écologique ?
Ces grandes infrastructures, ces grandes révolutions, la façon dont elles sont faites, vous disent comment les bénéfices sont distribués à la société. La première et la deuxième révolution industrielle, toute sur énergie fossile, était centralisée du haut vers le bas et intégrée verticalement pour l'organisation. Donc finalement, le pouvoir était distribué de façon inégale. Le pouvoir allait à la tête. La troisième révolution industrielle est faite comme chaque personne qui est née dans les ans 2000 sait que c'est ouvert, transparent et latéralisé. Alors que les grandes organisations comme Facebook, Google, Twitter, Alibaba ont créé ces organisations monstrueuses et utilisent nos données et les commercialisent, elles ne seront plus là dans 20 ans.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Elles ne seront plus là. Ce qui se produit, c'est que nous mettons en place un Internet des objets avec des capteurs qui permet à chaque propriétaire, à chaque petite entreprise, à chaque coopérative, à chaque gouvernement local, de contrôler sa propre information. Le problème, c'est que ces capteurs que nous mettons dans nos réfrigérateurs, dans nos maisons, eh bien, le montant, la quantité de données collectées est tellement énorme que ces géants, Google, Facebook, Twitter, ils ne peuvent plus les gérer. Il y a trop de données. Donc, il y a un nouveau phénomène qui s'appelle les centres de données EDGE, c'est-à-dire que chaque maison, chaque usine, chaque manufacture va avoir ses propres centres de données et pourra se relier l'un avec l'autre. Pourquoi ? Il y a tellement de données qu'il faut que ça soit distribué. Aucun centre de données centralisé ne peut le faire. Et ça serait trop lent. Par exemple, vous êtes dans un véhicule autonome, il va y avoir un accident. Vous n'avez pas le temps d'envoyer les données vers le cloud, vers le nuage, et au moment déjà où vous aurez le retour de données, l'accident se sera produit. Mais si vous avez des petits centres de données décentralisés, vous pourrez immédiatement avoir la réponse et prendre une décision avant que l'accident ne se produise. Donc ça fait revenir le pouvoir aux individus, chez eux, dans leur entreprise. Et ils auront plus à dire sur leur vie et nous pourrons mieux vivre grâce à cette société qui sera mue par l'énergie solaire et éolienne.
Donc la transition écologique, nous dites-vous, Jérémy Rifkin, doit s'appuyer sur la révolution numérique et peut-être, d'une certaine façon, la contrôler par les individus. Et précisément, c'est la question suivante que je voulais vous poser. À quelle échelle vous semble-t-il important que toute cette transition commence? On a lu un appel des villes face à l'urgence climatique dans le journal français Libération, signé par Anne Hidalgo, la maire de Paris par exemple, et par Eric Garcetti, qui est le maire de Los Angeles. On voit la façon dont certains individus, certaines associations se regroupent pour agir. On voit peut-être la lenteur de certains États. Bref, à quelle échelle, sachant que vous conseillez par exemple la Chine, donc chef d'État d'une puissance mondiale, et vous êtes aussi partie prenante dans une région française des Hauts-de-France, dont j'aimerais d'ailleurs que vous nous parliez. Quelle est la bonne échelle ?
Je suis tellement content que vous posiez cette question. Il faut comprendre que cette nouvelle infrastructure pour la troisième révolution industrielle arrivera au niveau local, au niveau des régions, des communautés. Les États-nations de l'Union européenne vont créer les codes, les standards et les incitations et l'alignement. Mais ce seront les 350 régions de l'Europe qui seront responsables sous la règle de subsidiarité de l'Union européenne qui devront mettre en place l'infrastructure. Vous avez mentionné les Hauts-de-France. Ça fait la sixième année que mon groupe se trouve avec la région des Hauts-de-France. C'est l'ancienne région industrielle de la France. Et ce que nous avons fait là, on leur a dit, on va travailler avec vous dans cette région, mais c'est la région qui doit créer sa feuille de route pour l'infrastructure de la troisième révolution industrielle. Ce qu'ils ont fait dans les Hauts-de-France, c'est que des milliers de personnes ont dit ce qu'elles avaient à dire et 300 personnes ont été désignés à travers tous les secteurs dans la région pour siéger pendant un an et développer la feuille de route sur leur région, basée sur cette feuille de route de la troisième révolution industrielle. Ils ont 1200 projets, ils ont des pôles technologiques, ils ont formé les petits-enfants des mineurs pour pouvoir rénover les habitations, pour pouvoir leur fournir de l'énergie éolienne et solaire. Et maintenant, on attend les banques vertes pour pouvoir faire progresser cette transition. S'ils peuvent le faire dans les Hauts-de-France, eh bien, toute région du monde et de France pourra le faire aussi.
D'un côté, le local, de l'autre, le global. Nous verrons ça juste après la chronique internationale de Matteo Caranta qui nous a rejoint. Il est 8h30 sur France Culture. Et en attendant cette idée culture, nous retrouvons notre invité du jour, l'essayiste américain Jérémy Rifkin. On vous a quitté, Jérémy Rifkin, sur votre expérience dans les Hauts-de-France, région française. J'aimerais qu'on prenne beaucoup de recul et de champ pour aller de l'autre côté de la planète et aborder la question d'un point de vue peut-être plus global. Il se trouve que vous conseillez donc aussi le gouvernement chinois. J'aimerais savoir si vous vous faites entendre, parce que la Chine veut prendre la tête de la lutte contre le changement climatique. Et pourtant, ces émissions de gaz à effet de serre continuent de croître à toute allure. À la fois, la Chine est leader mondial des énergies solaires et en même temps, elle continue de construire de nouvelles centrales à charbon. Alors, est-ce que vraiment, votre voix est entendue en Chine ?
Quand le président Xi et le premier ministre Li sont arrivés au pouvoir, le premier ministre Li a écrit dans son autobiographie qu'il avait lu mon livre sur la troisième révolution industrielle et qu'il avait dit à tout le gouvernement chinois de travailler sur ces lignes-là. J'ai eu 4 visites officielles avec les dirigeants chinois et la plus grande partie de l'architecture du plan quinquennal chinois est basée sur mon livre. La Chine est absolument déterminée à devenir la première société environnementale écologique du monde. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de charbon, beaucoup de gaz en Chine. Mais en 2019, le coût moyen de l'énergie renouvelable, solaire et éolien, vient de descendre en dessous du coût moyen de l'énergie nucléaire et du charbon. Le marché dit maintenant, le solaire et l'éolien, c'est l'énergie la plus bon marché au monde. Le grand groupe bancaire Citibank dit que nous avons 100 milliards de dollars d'actifs bloqués parce qu'il y a des droits de recherche sur du pétrole qui ne sera jamais fait, parce que les oléoducs ne seront jamais utilisés, parce qu'il y a des raffineries qui ont été construites qui ne seront jamais utilisées, parce que l'éolien et le solaire sont moins chers. Et donc, il y a une panique parce qu'on est assis sur des milliards de dollars qui sont des actifs bloqués qui ne seront jamais recouverts. Et alors, cet argent sort de l'énergie, des énergies fossiles, et veut aller vers les énergies vertes. Ces fonds de pension qui sont dans la panique, qui quittent l'énergie fossile et qui cherchent véritablement à s'investir dans l'énergie verte. Parce que des millions de travailleurs qui ont investi dans ces fonds de pension ne toucheront jamais leur retraite. Ils veulent investir maintenant dans des obligations vertes pour pouvoir mettre à l'échelle les infrastructures de la troisième révolution industrielle. Pas seulement dans les Hauts-de-France, mais dans le monde entier. Mais ce sont les gouvernements qui doivent créer les plans d'infrastructures. Chaque région de France doit mettre en place une banque verte. On n'a pas besoin de nouveaux impôts. C'est-à-dire que si on met en place ces assemblées collégiales comme dans les Hauts-de-France, l'argent est là. Il n'y a pas besoin de nouveaux impôts. Ça signifie des millions d'emplois. Vous savez, les robots, l'intelligence artificielle ne met pas en place les câbles sous la terre. Ils ne rénovent pas les habitations. C'est des millions d'emplois pour la France et à travers le monde entier.
Vous êtes en train de dire, Jérémy Rifkin, que le coût de cette transition écologique, qui a été évalué par Ursula von der Leyen dans son discours de cette semaine, évalué à donc 1000 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie, c'est-à-dire 7 fois le budget annuel de l'Europe, peut être financé par les fonds de pension. Elle a dit, il faut travailler main dans la main avec la Banque européenne d'investissement. Vous vous dites, maintenant, on a de l'argent à prendre dans les fonds de pension pour investir cet argent.
En septembre, la Banque d'investissement européenne m'a demandé de publier un essai sur la troisième révolution industrielle, qui publie maintenant dans les comptes rendus de l'Europe. Et c'est le plan que je décris. Je voudrais être très clair. Nous n'avons pas besoin de nouveaux impôts. Nous avons des milliards et des milliards de dollars qui sortent de l'énergie fossile parce que l'éolien et le solaire sont moins chers. Ce qui manque pour l'instant, c'est que les 350 régions de l'Europe doivent faire suivre la voie tracée par les Hauts-de-France et le Luxembourg et créer ces plans pour que ces gens reviennent à l'emploi, créent des nouveaux emplois. Nous avons devoir relâcher un petit peu le pacte de stabilité, disant que vous ne pouvez pas dépasser 3% de déficit budgétaire ou un certain pourcentage du PIB. Il faut relâcher un petit peu cela pour aller vers la troisième révolution industrielle. On n'a pas besoin seulement des fonds de pension. Il faut pouvoir créer des nouveaux emplois, des nouvelles occasions. Je ne veux pas que les gens me disent « Ah, ça ne peut pas être fait ». Mais non, le marché parle, les gouvernements doivent réagir au niveau national et régional, et l'argent est là.
Jérémy Rifkin, on l'aura noté, vous avez glissé un petit peu vite sur la Chine pour aller vers l'histoire du financement de cette troisième révolution industrielle maintenant, qui est cette révolution verte et ce New Deal Green New Deal que vous appelez de vos voeux. Je voudrais quand même vous poser une question, puisque vous êtes américain. Pourquoi conseiller plus le gouvernement chinois que le gouvernement américain? Est-ce que vous n'avez plus rien à attendre de Donald Trump? C'est pour cette raison que vous allez de l'autre côté de la planète?
Well, look, we have
Nous avons une présidence dysfonctionnelle qui tente de nous faire revenir vers une civilisation qui s'écroule, qui s'effondre, c'est celle de l'énergie fossile. Ce qu'il faut comprendre, que dans mon pays, et c'est vrai en Europe aussi, dans mon pays, ce sont les 50 États qui contrôlent l'infrastructure des États-Unis. Ce n'est pas le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, c'est comme l'Europe. Vous pouvez mettre en... L'Europe met en place les normes, mais c'est les 350 régions qui doivent déployer toute l'infrastructure en Europe. Mais dans mon pays, il y a 29 États qui passent déjà vers un portefeuille d'énergie renouvelable, tel que je le décris. Dans mon pays, la conférence américaine des maires, qui représente 91% du PIB, a annoncé une urgence climatique et va vers le New Deal vert, Los Angeles, etc. Ils vont vers le New Deal vert. Cette révolution est globale, c'est-à-dire chaque région doit mettre en place l'infrastructure et l'infrastructure ne peut pas appartenir à des sociétés privées. Ça doit être des infrastructures publiques pour que vous et moi puissions contrôler nos propres données, pour qu'on puisse déterminer quelles données on veut utiliser, pour que notre gouvernement local nous représente, au lieu d'abandonner et de dire « Ah, mais non, tout ça, c'est les grandes sociétés ». Non, ce n'est pas le cas. Ça sera global. Il y aura des coopératives comme un nouveau format. On verra des grandes PME, des PMI qui feront avancer cette révolution. Et nous pourrons quitter l'énergie fossile en moins de 20 ans si on peut gérer la façon dont on réfléchit à la façon de voir que c'est la première des priorités face à l'espèce humaine. Toutes les autres priorités sont secondaires. C'est la seule priorité. Il faut faire face à l'extinction de l'espèce et il faut passer à l'âge de la résilience et assurer un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants et à toutes les créatures sur Terre. Il n'y aura aucune excuse si on ne le fait pas.
Est-ce que c'est pour sauver la vie sur Terre, Jeremy Rifkin, ou est-ce que c'est pour sauver l'économie et le capitalisme qui doit devenir vert? Si je vous pose cette question, c'est que le New Deal, à l'origine de Roosevelt, il avait relancé l'économie américaine après la crise financière de 1929 avec une politique économique interventionniste. Est-ce que vous définissez une nouvelle stratégie de croissance? Est-ce que vous dites, puisque vous dites qu'à chaque révolution industrielle, on doit trouver un modèle sociétal et économique correspondant, est-ce que vous voulez sortir de la mystique de la croissance ou est-ce que il s'agit de retrouver une autre mystique de la croissance qui serait verte?
Nos philosophes ont manqué le point de ce que sont les véritables révolutions. C'est la façon dont on transforme les nouvelles infrastructures. Ce sont les infrastructures qui déterminent les modèles économiques. C'est les infrastructures, les révolutions des infrastructures qui déterminent la nouvelle gouvernance. Ce sont les infrastructures qui déterminent la façon dont les fruits des infrastructures sont distribués. Donc, ce que nous avons ici, c'est que cette troisième révolution industrielle, cette infrastructure est par nature distribuée. Prenons par exemple l'énergie. Oui, quand il y a de l'énergie fossile et de l'énergie nucléaire, ce sont des sociétés géantes qui les distribuent et qui les produisent. Mais le soleil et le vent sont absolument partout. Donc les grandes sociétés de fourniture d'énergie ne peuvent pas capturer le solaire et l'énergie à leur profit. Ils ne peuvent pas capturer chaque toit du monde. Donc ces grandes sociétés sont en train de laisser aller, ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient autrefois. C'est comme l'Internet. Il y a des grands acteurs qui sont verticaux pour l'instant. Mais il y a des tas de plus en plus de gens qui prennent contrôle de leurs propres données, qui vont et qui, par exemple, qui vont faire leurs études dans des MOOC, qui vont pouvoir avoir des informations grâce à Wikipédia. Mais tout cela est partagé localement, latéralement. Il y a des communs qui représentent les gens. C'est la nature de l'infrastructure qui dicte cela. Il n'y a aucune autre façon de le faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le capitalisme est en train de se métamorphoser. On passe d'acheteurs et de vendeurs dans des marchés à fournisseurs et utilisateurs. On passe de la propriété à l'accès. On passe de la productivité à la génération. On parle des externalités vers la circularité. On parle plus de PIB vers la suffisance et la durabilité. C'est un changement du business model qui émerge. Et moi, je travaille avec des entreprises ici en France et à travers le monde entier. Et ceux qui agissent le plus vite se métamorphosent en dehors du système capitaliste tel que nous le connaissons, qui sera beaucoup plus agile et beaucoup plus distribué. Et la conclusion, c'est que les gens doivent prendre contrôle de leur propre infrastructure dans leur région et les transformer en commun. Et à ce moment-là, on pourra s'occuper du changement climatique. On n'est plus dans l'âge du progrès. Vous savez, Condorcet, avant de passer à la guillotine, a dit « la perfection est là ». Aujourd'hui, nous comprenons que c'était de l'imaginaire. Nous sommes maintenant à l'âge de la résilience. Chaque région doit être résiliente et traiter des kilomètres de biosphère au-dessus de sa tête pour pouvoir passer, pour pouvoir survivre.
Jeremy Rifkin, vous disiez à juste titre que les États-Unis ne se résumaient pas à la présidence actuelle et à une seule personne, à la personne de votre président du moment, Donald Trump. Il se trouve que le New Deal vert mondial, c'est aussi le programme qui sert pour les candidats à l'investiture démocrate. Ils l'ont tous adopté et ils promettent un minimum de 1500 milliards de dollars d'investissement, donc c'est à suivre. Restez avec nous, puisque nous entrons dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi, et nous aimerions bien vous entendre à nouveau au cours de ce quart d'heure. 8h45 sur France Culture. Bernard Werber disait « Ceux qui gardent espoir finiront par s'en tirer ». Vous ne perdez jamais l'espoir, Jeremy Rifkin, qu'on pourra s'en tirer ?
Ce que j'ai appris au cours des 50 dernières années, c'est que notre circuit neurologique fondamental est fait pour être empathique. C'est dans nos neurones. Nous avons cela en nous. Bien qu'on ait des périodes sombres, la plupart du temps de nos jours, les gens montrent leur empathie les uns envers les autres. Et lorsqu'il y a des crises, par exemple des événements climatiques, je ne sais pas si vous avez été dans un désastre climatique, toute la communauté risque sa vie l'un pour l'autre. Il y a quelque chose d'empathique, parce que nous sommes des créatures sociales. Nous avons des sentiments les uns envers les autres en temps de crise et on s'aide. À l'avenir, nous aurons des crises climatiques tous les jours, pendant des millénaires. C'est une nouvelle ère de l'humanité. Et c'est cet esprit d'empathie, cette capacité sociale d'aider les êtres humains qui nous permettra à travers l'âge de la résilience de construire notre société qui sera véritablement en fonction du monde dans lequel nous aurons à vivre. Mais le temps file et les jeunes doivent aller de l'avant rapidement et transformer la civilisation dans les 20 années à venir et la façon dont on vit sur Terre.
Dernière question pour vous, Jeremy Rifkin. Vous évoquiez le mouvement mondial des jeunes tout à l'heure. Il se trouve qu'à la tête de ce mouvement mondial se trouve une très jeune fille, Greta Thunberg, qui s'est exprimée d'ailleurs à la COP25 cette semaine. Cette jeune fille a été désignée personnalité de l'année par le Time, cette semaine encore. Jugée ridicule par le président Trump. On va le laisser de côté parce que sinon je sais ce que vous allez nous dire. Mais juste sur la personnalité de l'année, Greta Thunberg, vous l'auriez fait de la même façon ?
Ce que je dirais, c'est que il y a eu des millions de Greta Thunberg. C'est elle qui est à l'avant, c'est elle que l'on montre le plus. Je crois que les jeunes doivent rester à manifester dans les rues. Mais ils doivent faire autre chose. Ils doivent commencer à faire sortir les vieux intérêts politiques, la vieille classe politique. Ils doivent entrer et se présenter aux élections, comme Alexandra Cortés, comme la nouvelle première ministre de la Finlande. On a besoin qu'une jeune génération comprenne la gravité de la chose et ait la motivation pour faire ces changements. Ils doivent être nos nouveaux élus. Il faut que des millions fassent sortir les anciens intérêts politiques, créent un nouveau mouvement dans toutes les régions du monde. Ça, c'est les jeunes, génération Z et les millénials qui doivent prendre le pouvoir.
8h53 sur France Culture, c'est l'heure des mitonnages de Jackie Durand de Libération. Merci beaucoup, Jackie Durand. On va terminer en musique avec le choix musical de l'invité. Peut-être un petit mot sur ce choix musical très rapidement, quelques secondes pour qu'on ait le temps de l'écouter. Jeremy Rifkin. Rocky Mountain, John Denver.
John Denver, j'ai eu l'avantage et le privilège d'être avec lui, juste avant sa mort en fait. C'était véritablement un champion de l'environnement, chevalier de l'environnement. Et lui s'est occupé du changement climatique il y a très longtemps. Et cette chanson reflète le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous aimerions vivre, dans l'esprit de protéger le globe.
He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. Keeps changing fast, and it don't last for long.
Et c'est sur cette chanson de John Denver que je vous donne quelques conseils pour le week-end. Quelques conseils pour vous, Jeremy Rifkin. Par exemple, la lecture du numéro 31 de la revue de France Culture, la revue papier qui vient de sortir en kiosque et en librairie, et qui vous invite à plonger en cette fin d'année dans notre obsession de la fin du monde, dont les historiens diront dans 100 ans, si l'humanité est encore là, qu'elle était vraiment une époque étrange. Mais notre fin du monde à nous, à France Culture, s'exprime d'abord par un refus. Et d'ailleurs, le dossier s'intitule « La fin du monde ». Non merci, tout simplement parce que ce monde, on y tient. En témoigne une fois de plus la richesse de ce numéro, fabriqué à partir de nos émissions, hormis peut-être les photos de Sébastien Wells et le cri d'alarme de Jonathan Franzen, publié dans le New Yorker et traduit ici. Sinon, il est question des oiseaux, avec Vinciam Dempré. On y entend la voix de l'historien italien Carlo Ginzburg et celle du rappeur Oxmo Puccino. On relit celle de Toni Morrison et on y lit la grâce et le concept de Léonard de Vinci. Et puis du coup, la tête dans les étoiles, on est prêt à observer cette nuit l'une des plus importantes et spectaculaires pluies d'étoiles filantes de l'année, les Géminides, la promesse d'admirer une pluie d'au moins 50 météores par heure dans la voûte céleste. Voilà, c'est avec ces mots que je vous laisse, Jeremy Rifkin, en vous remerciant d'être venu au matin du samedi. Le New Deal vert mondial, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Un grand merci à Michel Zlotowski qui assurait la traduction simultanée de vos propos, à l'équipe Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Jean-Christophe Francis et Jacques Hubert ce matin à la technique. Dans un instant, c'est les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut. Et puis on se retrouve demain dans Les Bonnes Choses où nous fêterons les 50 ans du guide Goemio. Bon week-end.